Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de pot.
Le peuple avait parlé, avait demandé, et nous, on a réalisé les demandes de nos auditeurs. On commence les premiers mangeux de Poc avec pas de pause. Hey, c'est réglé. Marco s'en vient. Je vous remercie. Comment ça va, Marco?
Salut, Marco.
Ça va très bien, les boys, vous autres?
Ça va merveilleusement bien.
En pleine forme.
En pleine forme. Écoute, FX, je l'ai jamais vu aussi bouillant d'énergie.
Il est 3h04. Ça se peut qu'à 16h15...
Je sais pas si c'est ta soupe à l'oignon que t'as mangé
non,
à midi.
Non.
Il me dit ça dans le bureau, toi. Excuse-moi... J'ai amené une soupe à l'oignon. Je sais pas ce qui va arriver quand je vais digérer ça dans le studio tout à l'heure. Pas de trouble.
Ah non, j'ai encore ma croustade aux pommes, là.
Tu l'as pas mangé encore?
Pas encore.
Moi, je l'ai mangé. T'en as-tu une autre portion qui traîne?
Ben, si Marco était en studio, il y en aurait une, mais...
Il est pas là.
Malheureusement.
Je vais prendre la portion.
Je l'étais. C'est ta faute. Ouais.
C'est vrai que tu l'étais.
OK, Marco, on va analyser ce qu'on a vu en fin de semaine dans le camp d'entraînement. Premier match préparatoire ce soir, manquez pas ça, sur les ondes de RDS. Si tu pouvais faire un seul changement sur les deux vagues d'avantages numériques qu'on a vu cette fin de semaine, ça serait quoi?
Écoute, j'ai vu les unités. Moi, je persiste que je crois que Ivan Demidov sur la première vague devrait se faire. Je comprends la stratégie de Martin Saint-Louis qui veut essayer de garder ses trios à 5 contre 5 le plus ensemble possible. Donc, c'est pour ça qu'on voit une division entre ces deux-là, mais ça n'empêche pas Zachary Bolduc de figurer sur la première vague dans le fameux bumper dans l'enclave. Donc, je crois que si on pouvait faire le swap Bolduc-Demidov, mais mettre Demidov au cercle droit, et Nick Suzuki dans l'enclave, je pense que c'est là que tu aurais un vrai diamant, style Tampa Bay 2020-2021, qui serait très difficile à contrer. On l'a vu d'ailleurs, cette stratégie-là, en séries éliminatoires après la blessure de Patrick Laine. C'est la seule chose que je changerais. Par contre, et je veux vraiment souligner ceci, je suis quand même très intrigué de voir comment Zachary Bolduc va pouvoir fonctionner sur cette première vague-là, parce que il a très bien fait à Saint-Louis dans une même position sur la première vague de l'avantage numérique.
Ouais, rappelons juste les deux vagues, là. La première, Slaff, Caulfield, Bolduc, Suzuki, Lane Hudson. La deuxième, Gallagher, Laine, Dak, Demidov, Dobson. C'est quand même deux solides vagues, là.
Oui, mais la raison pourquoi j'aimerais Bolduc sur la deuxième, c'est parce que si tu regardes la deuxième vague, on répète les noms, là. Laine, Dak, Demidov, Dobson, Gallagher. Qui va gagner une mise en jeu en zone offensive? Il n'y en a pas un, là. Il n'y en a pas un. Venez pas me dire que Kirby Dak va pouvoir le gagner si ce n'est pas sur son côté,
c'est vrai.
Sur son côté fort.
Rarement c'est un silence aura été aussi lourd de sens, Marco. C'est une... Non, tu as tout à fait raison. On va qualifier ça, d'ailleurs. On ne l'utilise plus souvent, cette expression-là. Une excellente bonne question. C'est qui vaut la peine d'être posé. Absolument.
C'est pour ça que j'ai été surpris de voir Gallagher là à place d'un gars comme, mettons, New Hook ou peut-être un Jake Evans. Je sais c'est quoi le but de l'avoir devant le filet. Il te dérange, bien sûr, absolument. Mais force de l'admettre, t'as besoin de commencer avec la possession de la rondelle, spécialement quand t'es la deuxième vague, si tu veux espérer créer de l'offensive. Sinon, tu t'en demandes beaucoup à Dak, je trouve.
Ben, est-ce que New York au cercle des mises en jeu, parce que je sais qu'on l'avait critiqué pour ça l'an dernier, moi j'aimais beaucoup voir ses entrées, on dirait que ça fonctionnait beaucoup, là, ses entrées en zone offensive, en deuxième vague d'avantage numérique, là. Mais il me semble qu'il n'est pas le joueur le plus reconnu pour remporter des mises en jeu, là, Alex New York.
Pas nécessairement. Écoute, tu peux même mettre Oliver Kapanen s'il est capable de se tailler une place. C'est juste d'avoir un gaucher et un droitier au centre qui peut prendre les mises au jeu dans leur côté fort ou non. Et je pense que c'est plus ça. Tu sais, Dak le droitier, New Hook le gaucher, ça te permet un peu plus de flexibilité puis plus de chances de commencer l'avantage numérique ou recommencer l'avantage numérique avec possession. Donc, je pense juste à des choses comme ça parce que c'est un peu le même processus avec la première vague. Il y a d'autres Nick Suzuki va prendre les mises au jeu, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Donc, tu sais, Nick Suzuki, c'est pas mal intouchable, c'est toujours du 50% au plus. Là, il faut vraiment regarder quoi faire avec la deuxième vague, parce que le gros problème de la deuxième vague, outre le manque de chimie ou de talent l'année passée, c'est qu'il commençait jamais avec la rondelle. Donc, tu perdais toujours en 15-20 secondes à aller la chercher dans ta zone.
Exact. Juste être clair, on n'est pas en train de dire que Kirby Dach joue ce soir. On parlait des vagues d'avantages numériques qu'on a vues ce week-end au camp d'entraînement. C'est pas ce soir. On sait que Kirby Dach ne joue pas. Bien sûr, ce sera Kapanen qui va être au centre de Laine et Demidov. On l'a mentionné, mais puisqu'il y a des gens qui se joignent à nous à chaque seconde, on va juste le répéter. Maintenant, deuxième question, mon cher Marco. Est-ce que Mike Madison ne devrait pas être sur la deuxième vague d'avantages numériques? Lui, qui a commencé l'an dernier sur la première vague, qui avait connu un très bon succès la saison précédente et qui est capable de piloter une vague d'avantages numériques.
Le Canadien est un des probablement deux seules équipes à avoir deux défenseurs qui risquent d'avoir plus que 55 points cette année. Noah Dobson, Lane Hudson. Malheureusement pour Mike Matheson, il est le troisième homme dans l'équation. Donc, ça fait en sorte que sauf s'il y a une blessure, malheureusement, il n'a plus sa place sur l'avantage numérique. Et écoute, je pense que c'est bon augure pour lui parce que ça va réduire ses minutes un peu, puis ça va le permettre vraiment de focusser sur l'aspect à 5 contre 5 et en désavantage numérique, ou ce qui va être utilisé en outrance selon ce qu'on voit en ce moment. Donc, ça me dérange pas. C'est ça que ça fait, avoir plus de talent et de qualité dans ton alignement. Et donc, si t'as un Dobson qui, sur une bonne, disons, moitié d'équipe, serait sur la première vague de l'avantage numérique, si t'as le luxe de pouvoir mettre sur le 2, c'est pas une insulte à Mike Matheson de pouvoir l'écarter de ça.
Je suis quand même surpris dans le cas de Mike Matheson, par contre. Parce que le gars, il passe de piloter le premier avantage numérique. Quand Lane Hudson était finalement prêt, ou après le début de la saison, finalement, on a mis Lane Hudson là, sur la première vague. Alors, il était sur la deuxième. Et là, maintenant, il n'est plus parmi les deux vagues d'avantages numériques. Mike Madison, je vous le rappelle, la dernière année de contrat, le gars, il y a une année importante devant lui, n'est pas utilisé sur les deux vagues d'avantages numériques. Oui, l'an dernier, on l'a vu 2 minutes sur le désavantage numérique, Marco, mais dans son cas, c'est pas une bonne nouvelle quand tu regardes que c'est une dernière année de contrat pour lui cette année, là, avant de signer un nouveau contrat. Là. Puis on s'entend que le nombre de points qu'il va amasser. Non, mais je te laisse aller. Vas-y.
Ouais, j'allais juste dire, il va quand même jouer à 5 contre 5 avec Noah Dobson.
C'est clair.
Et il risque d'avoir beaucoup plus de points à 5 contre 5 qu'il avait l'année passée, mettons. Donc, c'est là où ce que je regarde la potentielle chimie, le rôle, le ci, le ça. Parce que Mike Matheson, si tu regardes sa carrière tout au long, t'as le 60 points qui est comme sorti d'un peu nulle part si tu continues à suivre sa carrière. Parce que tout le monde le sait, il a joué sur la première vague de l'avantage numérique sur un club qui était un club à un trio dans le temps. Donc, toutes les forces étaient unies dans ce mode-là. Et là, tu as plus de talent à travers l'alignement. Tu te dois de créer des rôles plus définis. Tu as des meilleurs jeunes joueurs qui commencent à se greffer à l'alignement. Et tu fais des échanges pour des défenseurs qui sont des numéros 1 avec d'autres équipes. Donc, tu sais, c'est une mauvaise nouvelle si les DG de la Ligue nationale se basaient uniquement sur les points que le défenseur fait. Je crois que si Mike Matheson a une meilleure saison défensive cette année, continue à jouer entre 20 et 24 minutes par match et se démontre comme étant vraiment la pierre angulaire en désavantage numérique pour cette équipe-là, je pense que ça va l'aider en termes de valeur beaucoup plus que de répéter une saison de 50 points. Pour moi, il n'y a personne qui doute des qualités offensives de Mike Matheson. Tout le monde a assez de tape là-dessus. Qu'est-ce que tu veux voir, c'est est-ce qu'il est capable de peaufiner son jeu ou de pivoter son jeu pour que ça soit plus axé vers la défensive? Parce que s'il est capable de faire ça, c'est ça qui va prolonger sa carrière avec son coup de patin. Pas nécessairement juste l'aptitude offensive.
Oui, ça, un coup de patin, il y en a tout un, là, mais je te pose la question que probablement beaucoup de nos auditeurs se posent présentement. Est-ce qu'il peut y avoir un monde dans lequel, sur la première vague, on voit Hudson Dobson et que sur la deuxième, on voit Matheson piloter cette vague-là? Est-ce que ça peut exister, là? Tu sais, puis regardons toutes les possibilités. On fait ça spéculer sur l'avantage numérique, présentement.
Ouais. Tout dépend de qui est en santé puis qui sait quoi la situation. Donc, c'est pour moi, exemple, Slavkovski se blesse, tu mets Nick Suzuki proche du filet puis tu montes Dobson sur la première vague. Comme ça, tu peux avoir vraiment La seule chose vraiment que je trouve que Hutton manque, que Dobson a, c'est un tir sur réception foudroyant. Et je pense que c'est vraiment ça la différence entre les deux, c'est la capacité de tir sur un avantage numérique. C'est pour ça que les Canadiens sont allés chercher un joueur comme Dobson. Donc, c'est la seule façon que je les verrais les deux sur la même vague, mais ça prendrait quelque chose parce que je pense pas que tu ferais ça pour ensuite enlever un attaquant de l'alignement, parce qu'après ça, si tu te fais tasser de la mise au jeu, puis tu as, exemple, Cole Caulfield, puis Patrick Laine, ou Cole Caulfield, puis Ivan Demidov, qui prend les mises au jeu, comment tu vas commencer ton alignement, qui va se tasser où. Il y a beaucoup de cette stratégie-là qu'on prend pas en considération quand on n'est pas l'entraîneur de l'équipe, mais je me dis simplement, tu veux t'offrir le plus d'options possibles en attaque, c'est pour ça qu'on voit d'habitude 4 attaquants. C'est pour mieux éparpiller les joueurs et laisser le défenseur à la pointe tout seul d'habitude. Donc, c'est ça que je veux. Je crois que Martin Saint-Louis veut émuler aussi, mais risque de voir si le monde sont en santé. S'ils sont pas en santé, c'est clair que ça va changer.
On s'entend que ça va changer, là. Je veux dire, Demidov qui commence la saison sur la deuxième vague d'avantages numériques. Là, je sais pas, ce serait quoi le temps d'utilisation. On va-tu faire une minute 15, 45 secondes, mais je pense que c'est une question de temps, Marco, là, avant qu'on voit Demidov sur la première vague, là.
On s'est dit la même chose l'année passée avec Lane Hutson. Oui, il a commencé sur la 2. Tout le monde croyait qu'il aurait dû commencer sur la 1. Martin Saint-Louis voulait le faire commencer tranquillos. Qu'est-ce qui est arrivé? Mike Matheson ne livrait pas la marchandise. Ils ont monté Lane Hutson et il a continué avec ça. Mais Lane Hutson lui-même nous a dit de prendre toutes ces responsabilités-là tout en même temps. Pas nécessairement la meilleure chose pour un jeune, d'y aller peut-être étape par étape, même si les étapes se brûlent assez vite, c'est un peu mieux pour le momentum. Puis on a vu que Lane Hutson avait un momentum assez non proportionnel à la norme. On a vraiment vu une courbe de progression assez accentuée. Donc pour moi, je pense qu'ils veulent voir la même chose de Demidov sans y mettre trop sur la planche. Il va jouer dans le top 6, il va jouer sur l'avantage numérique. Et il risque de voir durant la saison, il va passer probablement d'une quinzaine de minutes en moyenne par match à probablement 17-18.
Parmi tous les joueurs qui vont jouer ce soir, il y en a qui ont des auditions importantes. Owen Beck, Philippe Méchard, Jaden Struble, Adam Engstrom, mais surtout, Oliver Kapanen, qui va jouer au centre de Laine et Demidov sur le premier trio. Lequel de ces joueurs-là, peut-être un autre que j'ai pas nommé, aura l'audition la plus importante ce soir?
Mais pour moi, c'est toujours Kapanen. C'est se faire utiliser comme premier centre dans la place de Dak, c'est pas par accident. Encore jumelé avec Demidov, encore une fois, pas par accident. Le Canadien, selon ce que je comprends, croit que Kirby Dak sera prêt le premier match. Mais comme on a vu avec David Reinbacher, être prêt et être à 100% pour tous les matchs, c'est deux choses complètement différentes. Donc, ça se peut qu'on voit Kirby Dach sauter un match ici et là dans le premier mois, un peu comme on a vu avec David Reinbacher. Donc, ils doivent voir ce qu'ils ont avec un gars comme Oliver Kapanen. Et si tu regardes le nombre de postes assurés dans le club, il y a peut-être deux postes vraiment qui sont disponibles, 12e et 13e attaquant. Donc, il est en train vraiment de se battre pour ce poste-là. Et il n'y a pas meilleure façon de démontrer son talent que de jouer avec deux joueurs top 6 contre un club, plus de la Ligue américaine, de l'autre bord côté Pittsburgh. Tu as l'opportunité en or pour te faire valoir alors que tu as un Owen Beck derrière toi qui est en train de piloter le troisième trio avec Philippe Mesher et Sean Farrell. Donc, tu sais, le Canadien lui donne une chance en or en ce moment. C'est à lui de le saisir parce que s'il est capable de démontrer ce qu'il a démontré l'année passée et plus, je crois qu'il va avoir de très bonnes chances de se tailler une place avec l'équipe, être la police d'assurance de l'équipe au cas où ils ont besoin de donner un peu de repos à Kirby Dach.
Ce qu'on comprend, Marco, si jamais Kirby Dach ne joue pas le premier match de la saison, il arrive quoi que ce soit, est-ce que c'est Oliver Kapanen qui se retrouve dans cette chaise-là pour les premiers matchs de la saison? S'il fait bien en campagne.
Je vous ai dit quelque chose la semaine passée que Greg a adoré, mais ça joue sur la glace. Je peux pas vous dire en ce moment, maintenant, qui va faire quoi. On doit voir les performances. C'est une lutte ouverte. Et c'est pour ça que le Canadien essaye plusieurs jeunes à différents endroits. Et on n'a pas encore parlé de Florian Jacquin encore. Donc, tu sais, il y a des options au centre. Joe Veleno a été embauché primordialement pour apporter un peu plus de qualité à la ligne de centre aussi. Donc, il va y avoir des combinaisons qui vont être essayées en termes de police d'assurance. Mais pour moi, si tu es le Canadien de Montréal et tu veux faire avancer ta reconstruction, un gars comme Oliver Kapanen se doit de se lever à un moment donné pour prendre, que ce soit en poste de relève pour le deuxième centre, mais au moins un poste, disons, top 9 éventuellement, parce que sinon, il y a beaucoup de ce même joueur dans l'organigramme du Canadien avec le même potentiel et il doit saisir sa chance. Donc pour moi, c'est la plus grosse audition, mais je me dis aussi, si tu ne veux pas te retrouver à Laval assez vite puis te le faire perdre dans tous les autres joueurs qui vont essayer de passer par-dessus toi, c'est à toi de saisir la chance.
Oui, j'aime ça quand tu me dis que le hockey, ça joue sur la glace et un camp d'entraînement aussi.
Voilà. Je le sais.
Une expression que j'ai jamais entendue de ma vie. C'est la première fois, alors j'aime ça quand tu sors ça. J'ai une grosse question pour toi en terminant, Marco. McTavish a-tu signé?
Oh boy. Non. Non, il n'a pas signé.
Est-ce qu'il s'est mis sur sourdine pour rire? Ou...
C'est sûr que tu as activé la sourdine.
J'ai essayé, j'étais tenté, mais j'ai juste fait écoute, ça va pas être même, ça va être comme une seconde de rire, puis après ça, je vais comme soupirer un peu, puis je te réponds.
Sache quelque chose, Marco. Quand moi, je pose pas la question à quelqu'un si McTavish a signé, le peuple nous le demande sur la messagerie texte. C'est rendu un running gag qu'on n'a pas le choix. Et il faut poser la question jusqu'à temps que ça arrive. Mais maintenant, la question sérieuse s'en vient. À combien de pourcentage de chance estimes-tu que McTavish signe avec les Ducks d'ici le début de la saison?
Probablement 30%. Probablement. Ils sont assez loin.
30% qui ne commencent pas la saison. Avec, ça veut dire 70% des chances qui ne commencent pas la saison avec les Ducks?
À date, ça a l'air à ça. Là. Écoute, la saison débute en à peu près quoi, 14 jours, 15 jours. Ça se parle pas beaucoup en termes de... Il n'y a pas beaucoup de mouvement en ce moment. Il y a des clubs qui appellent pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ils se font tous revirer. Le clan Verbeek veut qu'il signe quelque chose de quasi long terme, pas trop long terme, mais quasi long terme, disons 5 ans, dans l'alentour de 5,5-6 millions. Et en vertu du fait que le cap salarial monte de façon assez splendide pour les joueurs, ben le clan McTavish veut 7-8 ans plus vers le 8 millions de dollars, ce qui est comprenable compte tenu de son potentiel, puis qu'est-ce que d'autres jeunes joueurs ont signé, d'ailleurs Nick Suzuki, dans le temps. Donc, c'est pas vraiment McTavish en ce moment qui en demande trop, c'est plus Pat Verbeek qui essaie de jouer à des jeux et essaie de vraiment renforcer sa vision pour son club, parce que dès l'été prochain, Leo Carlson doit signer un nouveau contrat, Jackson Lacombe un nouveau contrat, Pavel Mintyukov un nouveau contrat, Cutter Gauthier un nouveau contrat. Donc si tu mets ton jeune en ligne maintenant, les autres vont suivre, comme le Canadien a fait avec Nick Suzuki, et tu as eu Caulfield, Gouley puis Slavkovski.
Ça marche plus ça, Marco, dans la Ligue nationale. Ça marche plus, je comprends ce que tu dis, mais d'avoir un directeur général qui essaie de gagner à 100% puis que ça soit pas un win-win, le joueur va pogner les nerfs, dire, tu sais quoi, c'est comme ça que tu m'apprécies pas, mais allez jouer ailleurs, il y a 31 autres clubs qui me prendraient dans leur équipe, fait que fais arriver une transaction puis règle ça de cette façon-là. Pat Verbeek, c'est à quelle heure qu'il comprend, là?
Je pense que ça va être plus comme William Nylander que ça va être que autre. Selon moi, là, ça va se jouer, ça va probablement commencer la saison. Mais si tu regardes les Ducks d'Anaheim, tu n'embauches pas un coach comme Quenneville avec tout le drame qui le suit pour ensuite commencer une saison sur le mauvais pied. Puis là, c'est là que le stress va commencer à monter du côté d'Anaheim. C'est peut-être là que ça va causer un peu de mouvement du côté de Pat Verbeek, parce que on l'a vu, les négociations avec Pat Verbeek sont assez rough, selon ce que j'entends. Et selon ce que je me suis fait chuchoter de certains agents, c'est assez rough. Et donc, lui veut vraiment quelque chose, une telle vision. Mais les joueurs, comme Mason McTavish, veut être un Duck d'Anaheim. Il veut retourner. Il n'y a pas de mésentente là-dessus. C'est juste, sont en train de se faire menotter en ce moment à cause qu'il y a pas de club qui veut lui faire une offre hostile et il n'y a pas d'arbitrage dans ce cas-ci. C'est déjà tout passé. Donc, il n'y a pas tant d'options dans son cas. Et ça va prendre vraiment quelque chose de gros pour changer la situation qu'il demande une transaction. Selon eux, ça va se régler. C'est juste une question de quand.
Trouve ça intéressant. On va suivre le dossier. On va continuer. On va se poser la même question.
Mais c'est pas bon, ça, dans un vestiaire. Tu commences la saison, il te manque Mason McTavish. T'as une bonne jeune équipe qui s'en vient. T'as un nouvel entraîneur-chef. Ça n'envoie pas le bon message.
Jean-Sébastien Giguère nous l'a dit vendredi. T'sais, tu tu te ranges derrière ton coéquipier, il l'a dit, là, Mintukov, Lacombe, tous les autres vont vouloir signer, donc ils veulent aller chercher le plus possible. Fait qu'eux autres, tu mets du côté de Mason McTavish. C'est pas lui qui a l'air du mauvais dans cette histoire-là. Mais t'as ton directeur général, Pat Verbeek, qu'est-ce que ça donne? Là? Regarde ce que ça fait présentement avec les Rangers de New York où l'état-major est complètement déconnecté de ce qui se passe sur la glace aussi. Là. Est-ce que ça amène une culture gagnante dans une entreprise, dans une équipe de hockey? Moi, je refuse de croire que tout ça, ça finit par être bon, puis que c'est l'attitude à approcher avec tes jeunes joyaux de l'organisation.
Moi non plus, je suis pas d'accord. Puis écoute, je pense qu'est-ce que le Canadien a fait avec leurs jeunes démontre un peu plus d'ouverture et démontre beaucoup plus de confiance. Et je pense que c'est pour ça que la culture à Montréal est reconnue comme étant vraiment bonne à travers la Ligue. C'est à cause qu'il n'y a pas de jeu qui se joue. Oui, les Canadiens sont en train de négocier avec Lane Hudson, eux aussi. Et oui, c'est pas quelque chose qui est immédiat, mais je vous promets une chose, ça ne se rend pas à l'année prochaine, ce temps-ci, le contrat de Lane Hudson. On attend juste pour voir où ce que va le marché pour ensuite entamer à nouveau les conversations puis se rapprocher un peu plus. Dans le cas de Verbeek, c'est cyclique quasiment avec ses meilleurs joueurs. Puis ça, malheureusement, là, être, mettons, Kurt Overhart, qui est l'agent à Cutter Gauthier, qui a fait en sorte que son client est parti de Philadelphie pour aller à Anaheim. Il y a une petite sueur qui tombe sur ma tête à regarder la façon qu'il négocie avec un joueur comme Mason McTavish.
Ouais, exactement. Et attends une minute, on a un petit extrait très important.
Are you awake?
Voilà. Merci Marco pour cette excellente, encore une fois, édition des Mangeux de Puck. On se reparle jeudi.
Jeudi, oui.
Jeudi avec plaisir, les gars. Bonne journée. Bonne journée aux auditeurs aussi.